France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
En 2002, l'historien spécialiste de l'Asie, Jean Chesneau, venait de publier Jules Verne, un regard sur le monde, un ouvrage qui prolongeait celui qu'il avait publié en 1971, une lecture politique de Jules Verne. Invité de l'émission de Thierry Pacaud, D'un titre à l'autre pour une histoire des titres, Jean Chesneau exposait ce qu'à eux seuls, les titres des 64 romans révélaient de l'œuvre de Jules Verne. D'un titre à l'autre, pour une histoire des titres, Jules Verne, première diffusion le 6 août 2002 sur France Culture.
D'un titre à l'autre, pour une histoire des titres. Jean Chesneau, vous êtes historien et vous êtes l'auteur de Jules Verne, un regard sur le monde, publié chez Bayard. Jules Verne, de 1863 à 1919, publie 64 romans, dont 8 posthumes, puisqu'il meurt en 1905, dans la série d'un surtitre, je dirais, Voyage extraordinaire.
Si vous permettez, il y a eu 2 surtitres, et je pense que le deuxième est beaucoup plus profond que le premier, même si le premier était plus commercial. Voyage extraordinaire, mais aussi les mondes connus et inconnus. Et cette idée de l'unité entre l'expérience sociale de la planète qu'ont pu avoir les hommes du temps de Jules Verne, expérience géographique, expérience politique aussi, et l'idée de l'inconnu, du mystère, donc de l'avenir, se recoupe à travers cette double formule, les mondes connus et inconnus, à laquelle je suis très attaché.
Quelle typologie pourrait-on faire de ces 64 titres ?
Alors, c'est un exercice assez fascinant, comme tous les exercices imposés par une quelconque discussion sur Jules Verne. J'avais pas mal lu Jules Verne, je crois que je le connais assez bien, mais il ne m'était jamais arrivé d'avoir à examiner la liste des romans uniquement en ce qui concerne leur titre. En ce qui concerne en effet la typologie de leurs titres, les fils conducteurs, les orientations diverses, j'ai essayé de le faire. Alors, je distinguerai d'abord les romans, les titres des romans qui sont dans le droit fil du surtitre, les voyages extraordinaires, les mondes connus et inconnus, c'est-à-dire des aventures insolites. De mystérieux drames romantiques. Jules Verne était resté très imprégné du romantisme à travers Victor Hugo. Et là, il n'y a que l'embarras du choix, que ce soit l'île mystérieuse, le voyage au centre de la Terre, les tribulations du chinois d'un chinois en Chine, la chasse aux météores, la famille sans nom, le château des Carpates, le sphinx des glaces et beaucoup d'autres. Ça, c'est un peu la titulature naturelle qui est au cœur même du projet vernien. Beaucoup plus original, une deuxième série qui se caractérise par un effort de numérisation. On parle beaucoup aujourd'hui de numérologie, y compris de façon à mon avis aberrante, pour choisir entre 2000 candidats à un seul poste, on regarde sa date de naissance plus son numéro de voiture, laissons tomber ces aberrations. Mais c'est vrai que Jules Verne était très fasciné par les chiffres. Il n'était pas un mathématicien, il avait un cousin mathématicien, il avait des amis à qui il faisait réviser ses manuscrits pour la correction des calculs ou des éléments arithmétiques, et que ça soit Les 20 milieux sous les mers, le tour du monde en 80 jours, le capitaine de 15 ans, les 500 millions de la Bégum, les 800 lieues sur l'Amazone, les 2 ans de vacances et autres, cet effort de numérisation ne m'avait jamais frappé jusqu'à ce que je relise cette liste en vue de la présente émission.
Alors, est-ce qu'on peut dire que ce choix-là de numérisation, c'est pour faire plus scientifique, plus réel?
Je pense que
c'est l'instrument de mesure qui prime là-derrière.
Exactement. Je pense que ça trahit un souci de quantification et donc, en effet, à travers la quantification, de contact avec le réel. Je vous donnerai raison là-dessus.
Donc, il y a une espèce de rationalité, finalement.
C'est ça. Et que, d'emblée, dans l'accès même au titre, les deux fonctions des romans de Jules Verne étaient réalisées conjointement, c'est-à-dire la récréation et l'éducation. Le périodique d'Hetzel, où les romans, beaucoup de romans ont paru par tranches, s'appelait le magasin, aujourd'hui on dit magazine, d'éducation et de récréation. L'éducation venait en premier. Et les chiffres en faisaient partie.
Alors plus banalement, Jules Verne adopte aussi des titres qui portent le nom du héros.
Alors ça, c'est mon troisième thème. C'est ce que j'appellerais l'onomastique. Et là, on voit déjà la riche... Il y a un certain nombre d'auteurs qui se sont enfoncés là-dedans avec passion, Michel Serres et beaucoup d'autres, essayant de décoder les noms des héros de Jules Verne, qui, pour beaucoup, apparaissent dès le titre Clovis d'Ardentor, les mirifiques aventures de Maître Antifer, César Cascabel, qui est un cascadeur, un bohémien, un funambule ambulant, Claudius Bombarnac, qui traverse toute l'Asie centrale dans un chemin de fer qui non seulement n'existait pas au temps de Jules Verne, mais n'existe toujours pas. Jean-Marie Cabidoulin, Hector Servadac, plus roué si on peut dire, parce que Servadac est l'anagramme exact du mot cadavre au pluriel. Michel Strogoff, les frères Kip, Mathias Sandorf, Kéraban le Têtu et d'autres. Et cette onomastique, elle est riche, elle est sonore. Je crois que la sonorité doit être, on doit insister là-dessus, sur tous ces exemples que je viens de donner. Mais en même temps, elle peut intriguer, elle n'est pas dénuée de quelques mystères.
Et à chaque fois, chaque nom est bien choisi, pas seulement phoniquement, mais aussi, il y a un arrière-sens, j'allais presque dire.
Il y a un rapport, en effet, entre le profil du personnage et les sonorités, l'assemblage des syllabes de son nom. Les aventures de Jean-Marie Cabidoulin. Ce Cabidoulin est un marin beau parleur, hableur, qui est persuadé d'avoir rencontré le grand serpent de mer, Claudius Bombarnac. Il bombe le torse et il lance volontiers des formules sonores. Et Michel Strogoff, il y a là tout le mystère des steppes sibériennes. Maître Antifer, qui est un nom de lieu, c'est un cap qu'il y a au nord du Havre, entre le Havre et Dieppe. C'est un Normand obstiné, madré, méfiant. Il y a toujours quelque chose dans ces noms.
Alors, il y a aussi des lieux qui servent de titre, soit des destinations, soit des localités.
Alors, c'est ça, mais j'insiste sur la dissymétrie. Je n'ai pas fait de pointage numérique, même si l'importance que Jules Verne attache à la numérisation aurait pu m'y encourager. Mais je dirais volontiers que ces trois premières catégories, les titres qui dérivent directement de l'onomastique des héros des romans, les formules numérisées, et bien sûr les aventures historiques, les aventures insolites, les drames romantiques, représentent largement plus de la moitié. Largement plus de la moitié. Mais en effet, il y a aussi des mises en situation qui peuvent être géographiques. Il y en a relativement peu. Il y a un drame en Livonie. Il y a...
Le château des Carpates.
Le château des Carpates.
Nord contre sud,
Sud, c'est plus politique, on va y venir. Les Indes noires, c'est-à-dire la richesse associée d'habitude à la colonisation dans l'Inde, mais transportée dans le sous-sol, les mines de charbon. Le pays des fourrures qui se passe au nord du Canada. Il y a un certain nombre de titres de mise en situation géographique simple ou de mise en situation politique.
Mais sans recherche d'exotisme.
Non, exactement. Non. De vous à moi, je pense que Jules Verne n'attachait pas une grande... Il ne passait pas des nuits blanches dans la recherche anxieuse de ses titres. Je pense qu'il travaillait beaucoup ses textes. On a eu la confirmation, on a les manuscrits. On a notamment la publication récente de sa correspondance avec Hetzel, où il discute avec acharnement sur tel ou tel détail. de la personnalité du capitaine Nemo, qui aurait dû être un prince polonais, mais Hetzel craignait pour la vente dans l'Empire russe, dont la Pologne était alors partie intégrante, et donc le capitaine Nemo de prince polonais est devenu un raja, bon, passons. Bon. Mais autant les textes étaient discutés pied à pied, travaillés à fond, repris deux, trois, quatre fois sur les épreuves, Hetzel pestait contre les dépenses considérables de correction d'épreuves, il fallait refaire des pages entières. Autant par contre, mon avis personnel, c'est que les titres ne s'y intéressaient pas énormément. Alors il y a en effet ces mises en situation géographique ou politique, l'archipel en feu, c'est-à-dire la révolte de la Grèce contre la domination turque au début du 19e siècle, nord contre sud, c'est-à-dire la guerre de sécession, il y a deux ou trois titres de cette eau, mais ça ne va pas trop loin. De la même façon, alors que Jules Verne passe pour un auteur d'anticipation scientifique, sinon un des maîtres de la science-fiction, de l'imagination technologique, les titres qui évoquent directement des exploits technologiques sont finalement assez peu nombreux. Il y a l'île à hélice, une plateforme flottante à travers le Pacifique qui promène des milliardaires oisifs. Il y a le phare du bout du monde, destiné à faciliter la navigation sur le Cap Horn. Et la maison à vapeur, c'est-à-dire un raja fantaisiste et plein d'argent, qui se fait construire un train routier, dont la locomotive a la forme d'un éléphant qui soulève ses pattes. Et les différents wagons sont des compartiments très confortables, comme il sied à un raja. Le phare du bout du monde, la maison à vapeur, l'île à l'hélice, bien sûr autour de la Lune et de la Terre à la Lune, mais la liste est très courte. Il nous propose, et c'est le choix du livre auquel vous avez bien voulu faire allusion, un regard sur le monde, et le futurisme technologique, au sens propre du terme, ne tient finalement qu'une place peu importante dans son œuvre en général, et dans cette liste de titres et la présente discussion en particulier, c'est tout à fait caractéristique.
Est-ce qu'on peut dire que les 8 titres posthumes qui ont dû être donnés, ils ont été donnés par son fils ou bien il les avait déjà inscrits sur les manuscrits ?
Alors ça, c'est une discussion interminable, à laquelle mettra fin, je l'espère, un de mes amis qui est un Jules Vernologue, de la science duquel je m'incline, et qui est un Turinois, Piero Gondolo della Riva. Et il n'est pas de ceux qui crache sur le fils Jules Verne comme le fils impénitent qui a trafiqué les manuscrits de son père pour se faire de l'argent, de concert sinon de mèche avec le fils de Hetzel, non moins pécunieux, ils ont tripatouillé les manuscrits à loisir. Je pense que Michel Verne était un personnage malheureux, angoissé, non dénué de génie, qui n'osait pas s'affirmer face à son père, y compris une fois le père disparu. Et c'est vrai que les textes ont été refaits et souvent améliorés. Moi, je suis de ceux qui le disent. Et c'est l'avis de Piero Gondolo della Riva aussi. Michel Verne était un vrai écrivain. Les naufragés du Jonathan, en 2 volumes, non seulement c'est un beaucoup plus beau titre que En Magellanie. La Magellanie, c'était le nom de la Terre de Feu et de ses parages. C'est un titre beaucoup plus vigoureux, mais le roman a pris beaucoup d'ampleur. Bon, un certain nombre de posthumes ont gardé le titre déjà prévu par Jules Verne, comme Le Volcan d'Or ou La Chasse aux Météores. Le Secret de Vilaine Storis, le titre a changé. C'est pas une grande question. Je pense que c'est pas une grande question. Même si la question des posthumes est intéressante.
Oui, parce que le très beau livre, du reste, hein, sur le destin du livre face à la technologie et à l'électricité, Paris en 1960, c'est un titre de Jules Verne.
Alors, il y a deux choses différentes. Il y a d'une part la journée d'un journaliste américain en 1889, qui est une nouvelle écrite par Michel Verne, qui a en quelque sorte été sous-traitant de son père, qui l'a signé de son vivant, sachant très bien que c'est son fils qui l'avait écrit, c'est une façon de reconnaître le talent du fils. Et puis alors, il y a le roman non posthume, puisqu'au contraire, un livre enthume, comme je le dis parfois, dans les controverses entre Verniens, qui a été retrouvé tout à fait par hasard au cours d'un déménagement, près de 100 ans après qu'on l'ait cru disparu, Hetzel l'avait refusé avec mépris, disant que ça ne tenait pas la route et qu'il fallait maintenant que Jules Verne marche droit. Et donc, ce roman d'anticipation très noir, où figure le terme du démon électricité, pas du tout la fée électricité chère à l'EDF, est un roman, en effet, où l'on voit la culture en régression, le livre et le journal convertis en matériaux couverts de poussière, sinon transformés en pâte chocolatée, considérée comme plus savoureuse quand on lit son journal, et on peut le déguster après. Le titre choisi par Jules Verne, c'était Paris en 1960, c'est-à-dire exactement 100 ans après la date présumée de rédaction de ce volume, qui a été exhumé effectivement par l'arrière-petit-fils Jean Verne et surtout Piero Condolo de la Riva. Ils ont fait un travail admirable.
Merci Jean Chédeau.
C'était un numéro de l'émission « D'un titre à l'autre » pour une histoire des titres que Thierry Pacaud consacrait à Jules Verne en compagnie de l'historien Jean Chesneau. Première diffusion le 6 août 2002 sur France Culture.